Allez, on démarre tout de suite, je vous le disais il y a un instant, avec le débrief du Lotofoot. C'est Chris qui démarre. Chris, tu réalises un 10 sur 14.
Ouais, c'est ça, 10 sur 14, et je m'en veux énormément sur cette grille, parce que voilà, il y a deux matchs où, franchement, que j'aurais dû aller chercher. Ce Lyon-Lille, où je décoche carrément une victoire lilloise, alors que Lille, quand même, réalise un excellent début de saison. Et Lyon, on le sait, est dans la douleur actuellement. Donc, voilà, donc, grosse frustration sur ce match-là. Après réflexion, j'aurais dû aller quand même chercher cette victoire lilloise. Grosse frustration aussi sur le match allemand, encore une fois. Hein, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de difficultés à lire ces matchs de Bundesliga. Et pourtant, c'était quand même un club de Hoffenheim qui visait un petit peu le haut de tableau et Mayence qui était plutôt dans la deuxième partie. Mais voilà, il y a eu un nul un but partout. Donc frustré sur ce match. Après, déçu de cette rencontre entre Lorient et Metz, où les Lorientais quand même menaient 2-1 avant de s'incliner 3-2. Et sincèrement, après, sur le Montpellier-Brest, je ne serais jamais allé chercher une victoire bretonne. Je voyais quand même les Montpellierains réagir. Donc, grosse frustration. Après, si j'ai trois satisfactions, ce serait donc déjà le triple de Tottenham-Aston Villa, où je pensais les Villains capables de réussir une performance face à Tottenham qui est resté sur deux matchs compliqués et qui avait pas mal d'absents sur ce match-là. Donc, content d'avoir triplé, parce que les Villains se sont imposés 2-1. Content d'avoir basé Everton-Manchester United, même si encore une fois, ça a été quand même un match quand même compliqué encore pour les Mancuniens, mais ils se sont quand même imposés 3-0, où je trouve qu'ils ont été énormément efficaces. Et après, voilà, une grosse satisfaction avec ce nul fixe Juve-Inter Milan, où je pense que ces deux formations pouvaient se contenter d'un match nul pour rester tranquillement dans le haut du tableau. Donc voilà, donc déception pour moi, je m'en veux, parce que j'aurais dû aller chercher le 12 sur cette grille.
Ok, Nadim, même score 10 sur 14, et quand on regarde vos fautes, vous en avez deux communes, c'est Brest et Metz.
Ouais, et pour ma part, déjà, j'ai une voix un peu enrouée, hein, je suis un peu pris, peut-être à cause de la déception de ce week-end. Les matchs de 15h ne m'ont vraiment pas souri en Ligue 1 avec 3 fautes sur 3 matchs. Et puis j'ai également fauté sur les Tottenham Hotspurs. Et après l'analyse de Chris, j'avais bien vérifié les compos. Alors j'ai rattrapé en perso la croix d'Aston Villa avec les absences de Tottenham. Mais c'est un mauvais prono. Ils avaient ouvert la marque, mais se sont fait retourner. Madison au milieu, il pèse énormément et son absence est vraiment préjudiciable. Donc ça, c'est pour les déceptions. Après, en satisfaction, évidemment, alors j'ai vu sur le chat Blacklist et Lyon, c'est même pas une question de Blacklist et Lyon, vous pouvez les jouer tout le temps perdant, sauf s'ils se retrouvent pendant 90 minutes à 11 contre 10, c'est impossible qu'ils gagnent un match, et même en supériorité numérique, je pense qu'ils auront du mal. Je lis beaucoup de personnes qui disent qu'on n'a même pas le niveau Ligue 2 en ce moment. Je pense que c'est le cas parce que les mots sont très profonds. Lille s'est baladé en première mi-temps, aurait pu mener 3-0 et puis ils ont tranquillement géré la rencontre pour s'imposer. Donc, j'espère que vous n'avez pas perdu de croix là-dessus. Et après, en autre satisfaction, alors c'est aussi la base de la Real Sociedad qui n'était pas forcément évidente à placer face à FC Séville qui est un grand nom quand même du championnat espagnol. Et enfin, alors c'est un petit concours de circonstances, j'ai coché le nul d'Offenheim suite à une erreur de clic, mais après je l'ai conservé dans mon perso, comme quoi les erreurs parfois peuvent avoir du bon, puisque je comptais baser Offenheim, mais voilà, comme j'ai eu un misclic, je l'ai conservé dans mon perso, mais ça n'a pas suffi, je vous rassure. Donc Offenheim en nul, et puis pour le reste, rien de spécial. Manchester, comme tu l'as dit, malgré le score flatteur de 3-0, a eu du mal dans le jeu.
Ok, merci messieurs pour ce débrief. On enchaîne avec le débrief book ou tous les deux. Je préfère vous le dire tout de suite. Autant la commission a été clémente sur le Lotofoot. Alors là, concernant tous les deux, c'est un 0 sur 3. La semaine dernière, vous avez critiqué mon carton. Cette semaine, je vous en inflige un. Il est de couleur rouge et il est géant. Allez, je te laisse débriefer, Chris, avec ton 0 sur 3. Explique-nous pourquoi tu n'as pas eu de chance.
Ouais, c'est mérité. Après, voilà, gros manque de réussite. Fribourg-Darmstadt, voilà, une grosse Fribourg qui visait l'autre tableau, qui recevait un promu en difficulté. Et Fribourg n'a pas réussi à s'imposer, donc un score de 1 partout. Donc Griffo n'a pas brillé sur ce match. Valence-Celta Vigo, où Valence était sur une bonne dynamique, et je vois aller Valence s'imposer face à Vigo, qui est plutôt dans la deuxième partie du tableau. Et finalement, ce match s'est terminé sur un triste nul de 0-0, avec plutôt en plus une équipe de Vigo qui aurait pu peut-être s'imposer même à Mestalla. Donc compliqué sur ces deux matchs. Et enfin, Montpellier-Oyonnax, où il n'y a pas eu d'effet psychologique sur le changement de staff. Hein, et même Montpellier s'est incliné à domicile face à Oyonnax. Malgré quand même trois essais marqués par Montpellier, mais donc pas de bonus offensif. Et enfin, pour le fun, je voyais un match assez ouvert entre Brentford et Arsenal, et finalement, Arsenal s'est imposé seulement 1-0, donc pas de possibilité de combiner sur ce match.
Merci, Nadim. Même score, malheureusement.
Oui, et puis deuxième fois de suite où je fais un 0 sur 3, donc le rouge est plus que mérité. Alors sur PSG Monaco, si vous aviez attendu les compos, puisque Ben Yedder n'était pas un titulaire, il fallait prendre Balogun et ça passait évidemment. Donc là-dessus, c'est un semi-échec pour moi parce que je voyais des buts monégasques, il y en a quand même eu deux dans le match, ce qui n'est pas rien au Parc des Princes. Encore fallait-il prendre les bons. Il y a eu Minamino également pour ceux qui l'ont pris. Mais vraiment, avec les compos, j'aurais pris Balogun au lieu de Ben Yedder qui était annoncé titu le matin dans l'équipe. Mais c'est quand même faux. Du côté de City, il n'y a eu qu'un seul but des Citizens par l'inévitable Haaland. Mais Phil Foden s'est procuré une grosse occasion, mais ça reste insuffisant. Et côté de l'AS Roma, ils se sont fait peur. Ils ont quand même marqué 3 buts au final. Lukaku était plutôt le passeur pour une fois dans le match, et donc ni le simple ni le doublé en fun ne sont passés.
Allez, on oublie ça pour la simple et bonne raison qu'on sait que vous êtes capable de faire mieux et ça sera, j'en suis persuadé, dès cette émission. Donc après la section l'autofoot, on passera à la section book qu'on débriefera vendredi prochain lors de la prochaine émission à 13h, vous pouvez la noter. Et en attendant, donc on bascule sur le l'autofoot 15 numéro 70, je le disais tout à l'heure, à valider ce soir avant 20h55. Pactole de 500 000 euros. La formule proposée, elle est toujours de 3 triples et 3 doubles. On commence avec le premier match. C'est un match du groupe F. Il nous intéresse plus particulièrement. C'est un club français. C'est le Paris Saint-Germain qui accueille Newcastle. Paris Saint-Germain, deuxième. Newcastle, quatrième. Paris Saint-Germain, 6 points. Et Newcastle, 4 points. C'est votre premier prono commun, Chris. Tu bases le Paris Saint-Germain.
Oui, je base le PSG. Pour moi, c'est peut-être le match le plus important sur ce début de saison pour les Parisiens, parce qu'il peut bien sûr décider d'une qualification pour les huitièmes. Donc je vois une victoire parisienne. Pourquoi? Parce que les Parisiens sont quand même performants au Parc des Princes. Hein, généralement, ils sont solides. À l'extérieur, c'est vrai que ça a été fragile à Milan et à Newcastle avec ces deux défaites, mais à domicile, les Parisiens font généralement le travail. Je trouve que la victoire face à Monaco est plutôt rassurante, hein, une victoire 5-2. Alors, pas forcément rassurante dans le secteur défensif, mais rassurante au niveau offensif, où on a vu des garçons ouvrir leur compteur comme Ousmane Dembélé, hein, qui a été souvent maladroit sur ce début de saison et qui a enfin a trouvé le chemin défilé. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour le PSG. Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours les absences de Marquinhos et de Warren, Zaïre et Emery, mais je trouve que le PSG a les cartes quand même pour s'imposer face à Newcastle. Une formation des Maipas qui sont plutôt en difficulté à l'extérieur, à l'image de leur défaite quand même à Dortmund. C'est une formation aussi qui s'est inclinée cette saison à Manchester City, à Brighton, dernièrement aussi à Bournemouth, hein, une formation qui est plutôt dans la deuxième partie du tableau de la Première Ligue. Il y a pas mal d'absents du côté de Newcastle, faudra surveiller aussi la compo. Donc je pense que les absences de Marquinhos et de Zaïre Emery seront compensées par les absences aussi du côté des Maipas. Donc moi, je vois une victoire parisienne. Je pense que le PSG va quand même encaisser un but, mais les Parisiens ont largement les moyens de trouver le chemin défilé à plusieurs reprises face au Maipas.
Ok, je le disais donc, Nadim, tu vois la même chose.
Ouais, je vois la même chose, juste pour répondre au chat. Oui, le site est actuellement down par rapport au site Pronosoft. Il y a un souci chez l'hébergeur, on est en train de voir ça. On espère qu'il va le rétablir. Sinon, je vois exactement la même chose que toi, Chris. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais on a la même analyse forcément, parce que pour moi, il y a vraiment deux équipes de Newcastle, celle à St. James Park où ils excellent et celle en déplacement où ils ont beaucoup plus de mal. Ils n'ont gagné que 2 fois cette saison en déplacement, toutes compétitions confondues. Et c'est vraiment deux visages que montre cette équipe, un peu comme le PSG hein, qui est impérial au Parc des Princes et qui est vraiment en difficulté hors de ses bases. Donc, on le verra même sur le reste des matchs. Je trouve qu'il y a un gros avantage à domicile et les équipes se comportent beaucoup mieux chez elles qu'en déplacement, donc dans cette Champions League. Et donc, Paris, c'est vrai qu'ils ont aussi des absences, comme tu l'as dit, Chris, mais ils se sont rassurés face à Monaco avec ces mêmes absences en marquant 5 buts. Tout le monde s'est rassuré, tu l'as dit, surtout Ousmane Dembélé qui a enfin débloqué son compteur but. Donc je vois les Parisiens s'imposer au Parc, ce qui éliminerait Newcastle des huitièmes de finale.
Merci, on enchaîne avec le second match, c'est le groupe G. C'est un match étrange. Pourquoi étrange? Parce que les deux clubs sont déjà qualifiés. C'est Manchester City qui est leader de son groupe et qui reçoit Leipzig qui lui est deuxième. Manchester City 12 points et Leipzig 9 points. Alors, votre prono diverge un petit peu, puisque Nadine, tu laisses traîner le N, et tu penses, toi, Chris, que les Citizens vont quand même jouer le coup à fond et vont battre Leipzig.
Oui, je pense qu'ils vont jouer le coup à fond. Alors, c'est vrai que le match nul peut suffire à Manchester City pour garder sa première place dans ce groupe. Donc c'est pour ça, je pense, que Nadim conserve ce nul sur cette rencontre-là. Moi, pour Manchester City est largement au-dessus de Leipzig. Hein. On l'a vu au match aller avec cette victoire 3-1 quand même à la Red Bull Arena. Donc c'est une formation des Citizens qui, c'est vrai, reste sur deux contre-performances en Première Ligue. Ce 4 buts partout face à Chelsea et ce nul 1 but partout face à Liverpool. Mais quand même, en Ligue des Champions, Manchester City, c'est très solide à l'Etihad Stadium. C'est quand même une série de 10 victoires. Donc je vois mal les Citizens s'incliner sur ce match-là. En plus, une victoire permettrait donc aux Citizens de retrouver un peu de confiance, mais surtout de faire tourner lors de la dernière journée avec, je crois, un déplacement à Belgrade, hein, si je me rappelle bien du calendrier. Donc c'est pour ça que je pense que Manchester City va s'imposer. Le RB Leipzig peut déjà être satisfait d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc c'est déjà une formation qui peut penser peut-être au futur match de championnat. Finir premier, ça serait une victoire obligatoire à l'Etihad Stadium. Je vois mal les Citizens s'incliner à domicile, surtout que Leipzig quand même reste sur pas mal de contre-performances à l'extérieur. Ils ont été battus dernièrement à Wolfsburg en coupe et en championnat, et aussi à Mayence en Bundesliga. Donc pour moi, avantage au partenaire d'Erwin Haaland.
Merci, Nadim va nous donner ses arguments. Pour le N.
Oui, d'ailleurs, comme on m'a demandé de le rappeler à chaque fois, ça va être un double 1N, préf 1, puisqu'évidemment, les Citizens sont largement supérieurs, surtout s'ils jouent à 100% de leur niveau, mais c'est quelque chose dont je doute un peu, parce que Pep Guardiola, par le passé, nous a déjà habitués à de la gestion ou de l'archi-gestion, surtout dans cette période où les matchs s'enchaînent, puisque les Citizens ont joué à Chelsea avec un score un peu fou de 4 buts partout. Ils ont enchaîné avec la réception de Liverpool un nouveau match nul. Donc, ils n'enchaînent pas vraiment les victoires en ce moment et ils ont un petit coup de mou. Et ils vont surtout également recevoir les Tottenham Hotspurs, leur bête noire, ce samedi. Donc, je pense que s'il peut gérer et assurer la première place avec un match nul, il le fera. Et s'il a envie de jouer, évidemment, son football, il devrait s'imposer avec les talents qu'il a dans son effectif. Leipzig, à l'aller, n'a pas été si ridicule que ça et a même inquiété ses Citizens un certain temps. Donc, je pense qu'un nul pour les deux équipes pourrait être une bonne opération, mais avantage tout de même quand même aux Citizens dans la préf.
C'est noté. Match numéro 3, c'est le groupe H. Deux équipes à égalité de points. Néanmoins, Barcelone qui reçoit Porto et leader avec 9 points. Alors, Nadim va jusqu'au triple pour ce match, pendant que Chris, lui, fait confiance au Barça.
Oui, confiance au Barça, tout simplement quand je regarde l'infirmerie des deux équipes. Du côté du Barça, alors c'est vrai que Gavi a rejoint l'infirmerie là pour une longue durée, mais les Barcelonais ont quand même récupéré ces dernières semaines la plupart de leurs cadres. Et ils ont surtout récupéré Frankie de Jong ce week-end. C'est vraiment le garçon qui manquait à cette équipe barcelonaise depuis le début de la saison. C'est le joueur qui fait le lien entre le secteur défensif et le secteur offensif. Donc je pense que les Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres ou encore Joao Félix vont avoir beaucoup plus de bons ballons à jouer dans la défense du FC Porto. Donc pour moi, avantage aux Catalans. À l'aller, les Catalans sont imposés 1-0. Alors c'est vrai que ça a été une victoire à l'arraché et le FC Porto aurait mérité de prendre au moins un point. Mais là, pour ce match retour, le FC Porto va devoir se passer de plusieurs éléments dans le secteur défensif. On parle quand même de 4 joueurs qui sont régulièrement titulaires dans cette défense qui vont manquer sur ce déplacement. C'est Wendell, c'est Ivan Marcano, c'est le défenseur central David Carmo et c'est peut-être l'expérimenté Pepe qui est très très incertain pour ce déplacement. Donc pour moi, avantage aux Catalans.
Très bien. Donc Nadim, premier triple.
Ouais, premier triple parce que le Barça, malgré tes arguments, Chris, je trouve qu'ils sont méconnaissables, surtout depuis 5 rencontres avec seulement 2 victoires et autant de défaites, dont celle face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk sur terrain neutre où ils avaient donc perdu en Ligue des Champions alors qu'ils se seraient assuré la qualification en s'imposant. Donc je trouve qu'ils sont vraiment pas au mieux en ce moment. En plus, ils viennent de perdre Gavi pour le reste de la saison avec une rupture des ligaments croisés. Ça va être compliqué pour eux. C'est pas le Barça qu'on a connu. En plus, peut-être que le Nou Camp leur manque un peu. Ils ont du mal à déployer leur jeu, même quand ils sont à domicile. Une victoire dans la douleur il y a 3 semaines contre Alavés également. Alors Porto de son côté, c'est guère mieux. C'est pas le meilleur Porto qu'on ait connu ou qu'on a connu ces dernières saisons. Mais je trouve que le match aller, malgré la défaite 1-0, tu l'as rappelé Chris, il méritait largement mieux. Il y a eu au moins un pénalty non sifflé en faveur des Portugais. Ils auraient dû faire mieux au match aller. Et je trouve que voilà, ces deux équipes ont 9 points. C'est encore un match qui compte pour la qualification, qui va même être capital puisqu'aucune des deux équipes n'est assurée de jouer les huitièmes de finale. Et je préfère tripler ici et là, j'ai aucune préférence.
Merci. Encore un autre groupe, c'est le groupe E, c'est le Feyenoord Rotterdam qui accueille l'Atlético Madrid. On verra que Nadim joue la même chose que Chris, c'est-à-dire un double N.
Ouais, donc c'est dans ce groupe-là, il y a trois formations qui peuvent encore aller chercher les deux billets pour les huitièmes de finale. Donc c'est un groupe plutôt serré. C'est une rencontre qui s'annonce passionnante. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, le Feyenoord est plutôt en difficulté, hein, à l'image de cette dernière défaite à Rome 1-0. Mais c'est une formation qui est invaincue à domicile depuis le début de la saison. Et en Ligue des Champions, c'est deux victoires en deux matchs devant la Lazio de Rome 3-1 et devant le Celtic 2-0. Je pense que les joueurs du Feyenoord vont être comme d'habitude poussés par leurs supporters, donc ça peut être compliqué pour l'Atlético Madrid qui à l'extérieur reste quand même sur des performances plutôt inquiétantes. On va parler quand même de cette récente défaite à Las Palmas 1-0 pardon, et en Ligue des Champions c'est 2-0 à l'extérieur, c'est à Rome avec, on se rappelle, ce dernier but du gardien romain dans les arrêts de jeu, et c'est 1-0 aussi à Glasgow sur le terrain du Celtic, 2-2. Ils ont quand même encaissé 2 buts face aux Écossais, donc je me dis que ça peut être compliqué pour l'Atlético Madrid et peut-être 1-0 peut suffire aux Colchoneros pour après jouer leur qualif sur le dernier match. Donc pour moi je décoche les Espagnols.
La même chose donc pour Nadim.
Ouais, la même chose. Le nul laisserait les deux équipes en vie et évidemment est plus avantageux pour l'Atlético de Madrid. Mais à domicile, je pense que les Néerlandais vont vraiment jouer leur jeu à 200% comme ils savent le faire. À l'aller, ils avaient déjà sérieusement inquiété cette équipe des Colchoneros. Ils avaient mené par 2 fois dans le déplacement à Madrid avant de subir la loi de l'inévitable père Morata et Griezmann. Alors, ça ne sera pas tout le temps le cas, surtout qu'en ce moment, ça tourne un peu moins bien du côté de l'Atlé, avec le dernier déplacement donc à Glasgow, 2-2 et la défaite que tu as rappelée à Las Palmas. En plus, par rapport au match aller, Jiménez, l'attaquant star de cette équipe du Feyenoord, a été suspendu. Là, il sera bien titulaire. Donc, pour moi, ici, ça va être le double 1-N avec une préférence sur les Néerlandais.
Merci. Match numéro 5, on retourne dans le groupe G. Ce sont les Young Boys de Berne qui accueillent l'Étoile Rouge de Belgrade. On verra que Nadim base les YBB, comme on dit. Ce sont deux clubs qui sont déjà éliminés, Chris. J'imagine la raison essentielle pour laquelle tu tripes ce match.
Ouais, c'est ça. Pour moi, il est complètement illisible. C'est deux clubs éliminés de la Ligue des Champions. Alors, c'est un match très important qui sera décisif pour être reversé en Europa League, parce que ces deux formations ne comptent qu'un seul point sur cette campagne de Ligue des Champions. Compliqué. On se rappelle quand même du match aller avec un score de 2-2. L'Étoile Rouge avait égalisé à 2 minutes de la fin grâce à Osman Boukhari. Pour moi, s'il y a une petite préférence, ça serait plutôt du côté des Serbes, parce que je trouve que, et je l'ai souvent répété dans ces émissions de Ligue des Champions, je trouve que les Serbes ont deux attaquants de qualité, hein, Ndiaye et Boukhari, deux attaquants qui ont fait mal aussi à Manchester City, hein, qui ont perturbé cette défense des Citizens. Donc je me dis qu'ils peuvent aller peut-être s'imposer en Suisse. Donc un triple pour moi pour pas prendre de risque, mais peut-être une préférence sur les Serbes.
Donc je le disais, Nadim, toi tu bases les YBB.
Ouais, là, je base les YBB sans avoir vu beaucoup d'images de ce club, parce qu'on sait qu'ils sont interdits de diffusion en France à cause du sponsor Mayo. Alors, je trouve qu'ils avaient quand même ramené un bon résultat d'un terrain très compliqué, réputé très difficile à jouer à Belgrade. Donc, l'ambiance est toujours très, très chaude. Ils avaient failli s'imposer là-bas sans le but égalisateur de Boukhari à la 88e minute, que tu avais pris d'ailleurs, Chris, en buteur. Voilà, une bonne prestation en déplacement, et je pense qu'à domicile cette fois ils seront un peu plus à l'aise, plus efficaces offensivement et devraient s'imposer.
Merci. Le sixième match, on retourne dans le groupe F, c'est le groupe du Paris Saint-Germain où le Milan AC accueille Dortmund. Milan AC troisième, Dortmund leader du groupe. On verra que Nadim joue déjà son deuxième triple et Chris lui est un petit peu plus léger avec un double 1-N.
Ouais, voilà, imprudent avec ce match nul, parce que Dortmund, clairement Dortmund pourrait se contenter de ce match nul pour continuer à arriver donc des huitièmes de finale. Le Milan AC doit s'imposer. Maintenant, c'est une équipe du Milan qui va être handicapée, hein, qui va être handicapée par pas mal d'absences. Hein, donc c'est Moussa, c'est Benacer, Pellegrino, Kaloulou, Okafor aussi devrait être absent. La nouvelle pépite française là de 15 ans, le petit Camarda qui a brillé ces derniers temps en Serie A, sera aussi absent sur ce match-là. Raphaël Leao est incertain. Donc, je me dis que si toutes ces absences sont confirmées, ça peut être compliqué pour les Milanais. Maintenant, c'est une formation de Milan qui a été capable de bonnes performances à domicile sur ce début de saison. On se rappelle quand même cette victoire face au PSG 2-1. On se rappelle aussi ce week-end avec un précieux succès à domicile devant la Fiorentina 1-0. Et Olivier Giroud, d'ailleurs, était absent sur ce match-là, était suspendu. Donc pour moi, léger avantage au Milanais. Je coche le nul parce que voilà, je vous dis, Dortmund peut s'en contenter. Cette équipe de Dortmund va aller chercher clairement un point à Giuseppe Meazza. Alors c'est vrai que dans le championnat allemand, Dortmund a été battu à domicile récemment par le Bayern 4-0, a été battu à Stuttgart 2-1. Mais en Ligue des Champions, les Allemands restent quand même sur deux précieuses victoires face à Newcastle. Donc voilà, donc pour moi, une double chance, un N sur cette rencontre.
Ok, merci. Moi, j'annonce que sur ce match, Nadim aura un prono juste.
Merci Raph, alors faudra pas mettre de préf et j'en ai pas vraiment, donc ça tombe bien, ça se trouve ça sera même le triple fixe de mon jeu. Alors je trouve que les marsupiaux, ils avaient quand même bien dominé le match aller et ils auraient dû s'imposer face à cette équipe du Milan. Alors c'est des marsupiaux qui sont quand même rassurés depuis ce match face au Milan, puisqu'ils ont justement trouvé leur 11 type, et surtout, et malheureusement pour notre attaquant Sébastien Haller, il a été mis sur le banc, et c'est Füllkrug qui est vraiment le joueur en pointe de cette attaque de Dortmund, et depuis ce changement, les résultats sont au rendez-vous pour Dortmund. Côté Milan AC, alors c'est une équipe qui est souvent aux deux visages. À San Siro, elle joue pas trop mal, et en déplacement, c'est pas ça, avec donc un non-match à Dortmund et une défaite au Parc. Et puis, on peut noter qu'ils avaient réussi une très belle prestation face au PSG, justement, lors du match retour. Mais l'artisan principal de cette victoire, c'était Rafael Leao, le Portugais, qui est actuellement blessé. Donc, je crains que ça ne soit compliqué pour ces Milanais, qui peuvent même perdre ici. Dortmund qui se qualifierait en cas de victoire. Un nul laisserait les deux équipes en vie.
Merci. C'est déjà le milieu de la grille avec le match numéro 7. C'est le groupe B, c'est le groupe d'Arsenal, de Lens et du FC Séville justement qui reçoit le PSV Eindhoven. On verra que Nadim joue un kit ou double pendant que Chris base les Sévillans.
Oui, c'est une base risquée, hein, donc c'est un match qui clairement peut, je pense, se tripler. C'est une formation de Séville, on le sait, qui est en difficulté dans le championnat espagnol, mais qui, comme la saison passée, est capable de grandes performances. On l'a vu aussi cette saison lors de la Supercoupe face à Manchester City. C'est une équipe quand même qui est intéressante sur le papier, mais c'est une équipe qui n'a toujours pas gagné en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Alors c'est vrai que les Andalous restent sur un nul à domicile devant Lens, mais c'était lors de la première journée, et je pense que le FC Séville n'était pas forcément prêt. Il y a eu une défaite face à Arsenal 2-1, donc à domicile, mais cette défaite, je pense, n'était pas forcément méritée. Les Sévillans auraient mérité de prendre au moins un point face aux Gunners. Donc je mise surtout contre le PSV Eindhoven, qui est quand même beaucoup moins à l'aise à l'extérieur. On va juste rappeler, en Ligue des Champions, à l'extérieur, c'est un petit point pris à Lens, mais c'est surtout une lourde défaite à Arsenal 4-0. Pour moi, Séville est capable de faire un grand match. Et on va quand même rappeler qu'au match aller, les Néerlandais avaient égalisé à la 95e minute de jeu. Donc, pour moi, un léger avantage pour le FC Séville.
Et Nadim, donc, qui exclut le nul.
Ouais, j'exclus les nuls parce que malgré leurs deux petits points, les Sévillans peuvent encore se qualifier. Et ça passe évidemment obligatoirement par une victoire face au PSV Eindhoven. Comme tu viens de le dire, Chris, ils doivent s'inspirer du match aller où ils menaient encore à la 95e minute sur la pelouse de Rotterdam. Donc, s'ils rejouent de la même façon, ils sont capables de s'imposer, qui plus est, à domicile. Mais voilà, le PSV, ça reste une équipe joueuse très offensive. C'est vrai qu'ils ont pris l'eau à Arsenal, mais ils s'étaient procuré des occasions et ils n'ont jamais fermé ce jeu. Donc, dans un jour de réussite, ils peuvent s'imposer. Surtout qu'ils seraient inspirés de s'imposer pour se qualifier parce qu'ils vont recevoir les Gunners d'Arsenal à la dernière journée et ils pourraient perdre la qualification en cas de défaite face à Arsenal. Donc, il vaut mieux assurer dès ce soir ou demain soir.
Merci. Match numéro 8, c'est le groupe A. C'est Galatasaray qui reçoit Manchester United. On verra que Nadim base les Turcs et que Chris, lui, joue un triple entre le 3e et le 4e de ce groupe, justement. Tout peut encore arriver.
Ouais, c'est ça, tout peut encore arriver. Même et Manchester United a besoin de points pour continuer à arriver des huitièmes de finale. Pour moi, tout est possible sur cette rencontre, donc je prends pas de risque. Avec Manchester United, il faut s'attendre à tout. Hein. On l'a vu dernièrement en championnat, c'est une équipe quand même qui s'est rassurée avec une victoire devant Luton 1-0, une victoire dans la douleur. Il y a eu ce succès là donc à Goodison Park face à Everton. Mais en Ligue des Champions, Manchester United, c'est quand même une défaite à Copenhague 4-3. C'est aussi une défaite à domicile à Old Trafford face aux Turcs 3-2. Donc je me dis que ça peut être compliqué pour Manchester United. Galatasaray, c'est une formation qui est aussi capable de tout, qui va être poussée par son public donc à domicile, mais qui cette saison a été battue quand même par le Bayern Munich 3-1, mais qui est allé chercher donc cette victoire, je le rappelais, à Old Trafford. Donc pour moi, pas de risque, je pense que tout peut arriver. Et si j'ai une petite préf, je partirai plutôt vers un N2 parce que je vois pas Manchester United quand même trébucher avant peut-être une dernière journée décisive.
À l'inverse de Nadim, qui, j'imagine, voit l'ambiance jouer un rôle capital.
Ouais, l'ambiance, le résultat du match aller, et puis surtout la défense des Mancuniens qui est catastrophique, qui a pris deux fois 4 buts en déplacement. Au Bayern, ça pouvait s'expliquer, défaite 4-3. Et hasard des faits, nouvelle défaite 4-3 à Copenhague. Donc, perdre 2 fois 4 ans en déplacement, c'est pas super rassurant, je trouve. Alors, en championnat, ils vont mieux, mais en Ligue des Champions, il y a un vrai problème. Et puis Galatasaray, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, c'est une vraie équipe calibrée pour passer au moins ce groupe avec des joueurs connus et qui ont joué de nombreuses saisons en Europe, mais dans les top championnats européens, dont Icardi, dont Wilfried Zaha et bien d'autres, dont également Torreira au milieu de terrain qui coûtait 60 millions d'euros quand il était passé par Arsenal, ou 40 millions de mémoire. Donc beaucoup de joueurs de talent capables d'inquiéter ces Mancuniens et même capables de s'imposer. Alors c'est un groupe où peut-être le qualifié n'aura que 6 ou 7 points pour aller en 8e. Ça peut être un record, mais on verra déjà les résultats de demain.
Merci. Match numéro 9, c'est le groupe C. C'est Braga qui accueille l'Union Berlin. Tous les deux, vous basez les locaux, Chris.
Oui, base Braga pour moi. Alors c'est un point pour Berlin sur le début de Ligue des Champions. C'est 3 points pour Braga. Clairement, c'est le match décisif donc dans la course à l'Europa League. Hein, une victoire de Braga et Braga sera au moins reversé en Europa League, mais pourra peut-être rêver des 8e de finale de Ligue des Champions. Surtout si Naples est battu à Madrid, hein, parce que Braga jouera à Naples sur la dernière journée. On va rappeler que Braga, c'est donc 3 défaites dans cette Ligue des Champions, mais c'est surtout une victoire à Berlin, 3-2. Les Portugais auront un cœur de s'imposer pour assurer, donc je disais, donc cette place en Europa League. À domicile, ils n'ont pas démérité hein, sur ce début de Ligue des Champions. C'est une défaite devant Naples 2-1, une défaite devant Madrid 2-1. Sur ces deux rencontres, je pense que les Portugais méritaient mieux, méritaient clairement au moins le point du match nul. Braga donc, peut donc valider une campagne européenne qui est plutôt intéressante. C'est quand même la meilleure attaque de la Liga Portugal Betclic, hein, donc avec notamment 10 buts pour Simon Banza, et on en parlera tout à l'heure pour les pronos book. Et du côté de Berlin, c'est une série là, actuelle de 15 matchs d'affilée sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Alors c'est vrai qu'on va me dire que Berlin vient de prendre un point à Naples en Ligue des Champions, mais ce jour-là, l'entraîneur de Naples était Rudi Garcia, donc je pense que là, l'Union de Berlin va s'incliner à Braga.
Merci. Donc je le disais, Nadim, tu bases également.
Ouais, je base également. C'est les mêmes arguments que Chris. On peut aussi rajouter que les deux matchs perdus à domicile sur le score 1-2 contre donc le Real et le Napoli, le Braga méritait bien mieux lors de ces deux matchs. Hein. Ils méritaient au moins le nul. Après, c'est vrai que le football, c'est aussi une question d'efficacité. Mais face à une équipe comme l'Union qui est en plein doute, donc 15 matchs sans la moindre victoire et surtout 13 défaites lors de ces 15 matchs, je pense que ça devrait le faire. Alors, le match aller était un peu renversant puisque les Portugais étaient menés 2-0 avant de renverser justement la vapeur. Mais là, à domicile, ils vont mettre le feu avec leurs attaquants. Tu as cité Banza, il y en a d'autres. On le verra également dans les pronos book.
Un petit indice. C'est le match numéro 10, c'est le groupe D. C'est la Real Sociedad qui, elle, est leader et déjà qualifiée avec 10 points, qui reçoit Salzbourg, qui, elle, cette équipe, est déjà éliminée malgré sa 3e place et ses 3 points. Tous les deux, vous êtes d'accord sur ce match, Chris ?
Oui, avantage pour moi, pour les Basques qui sont qualifiés, mais qui doivent s'imposer hein, pour conserver pour l'instant leur première place. Depuis leur défaite devant Barcelone en Liga, la Real Sociedad a quand même décroché 3 succès, hein, donc une victoire en Ligue des Champions devant le Benfica Lisbonne 3-1. Et il y a eu 2 succès en championnat à Almeria et devant le FC Séville ce week-end. Dans la Ligue des Champions, la Real Sociedad reste sur 3 victoires, donc quand même une belle victoire à Salzbourg. Donc pour moi, avantage au Basque. Du côté de Salzbourg, c'est 3 défaites d'affilée en Ligue des Champions. C'est une formation qui est plutôt laborieuse actuellement dans son championnat. Il y a eu un nul sur le terrain de l'Austria à Vienne. Il y a eu une courte victoire à domicile devant Hartberg. Donc je pense que les Basques sont un cran au-dessus.
Ouais, mêmes arguments, Nadine.
Ouais, mêmes arguments, ils sont qualifiés les Basques, mais l'objectif c'est quand même la place de numéro 1 parce que ça permet d'éviter des mastodontes de cette Ligue des Champions en finissant premier. Le Bayern devrait finir premier, finira premier tout comme Manchester City. Donc la première place vaudra de l'or et les Autrichiens sont peut-être un peu plus forts à domicile qu'en déplacement. et les Basques devraient attaquer pied au plancher comme ce week-end où ils ont inscrit 2 buts rapidement et le dernier match de Ligue des Champions contre Benfica où ils avaient mené 3-0 au bout de 20 minutes.
Merci. Le 11e match, c'est le groupe A et c'est le Bayern de Munich, déjà qualifié leader de ce groupe, qui reçoit le FC Copenhague. Alors Nadine, de son côté, base le Bayern pendant que Chris, lui, laisse traîner le N. Il va nous dire pourquoi.
Oui, je laisse traîner le N, tout simplement, sous le Bayern est donc déjà qualifié, déjà assuré de terminer à cette première place. En ce moment, les blessures s'enchaînent dans pas mal de formations, hein, dans pas mal de championnats. Donc les terrains sont gras, hein, donc de plus en plus gras. Donc je pense que le Bayern aura peut-être intérêt à garder un peu d'énergie pour son match de Bundesliga le week-end prochain. Et on rappelle quand même que le Bayern n'est toujours pas premier de la Bundesliga. Donc c'est quelque part la priorité, c'est peut-être le match qui arrive dans le championnat d'Allemagne. On va rappeler quand même que cette équipe de Copenhague est plutôt surprenante depuis le début de la saison. C'est une formation qui s'est inclinée 2-1 à l'aller face au Bayern. Mais on le rappelle, Copenhague aurait mérité de prendre un point avec une occasion immanquable ratée dans les dernières minutes. C'est une formation quand même qui vient de s'imposer à domicile devant Manchester United 4-3, qui a pris un bon point à Galatasaray. Donc les Danois n'auront rien à perdre sur cette rencontre, au contraire, ils auront tout à gagner. Donc je pense qu'ils peuvent peut-être aller chercher quelque chose et pourquoi pas un match nul. En tout cas, ma préf est bien sûr du côté du Bayern, mais un petit match nul serait une bonne surprise pour ce auto-foot.
Que nenni pour le N pour toi, Nenni?
Ouais, que nenni. Alors c'est vrai que l'enjeu, comme Chris le rappelait, est du côté des Danois, mais justement le Bayern, en regardant un peu leurs historiques, c'est une équipe qui prend rien à la légère, encore plus en face de groupes où ils tiennent déjà un record de victoires consécutives, qui est de 16 victoires consécutives, c'était récemment. Et là, ils sont repartis pour une série de victoires. Ils vont rien lâcher. Pour moi, ils sont complètement dans les stats. C'est une mentalité allemande cette fois, contrairement à l'équipe nationale. Alors le match aller, c'est vrai qu'il fut assez compliqué, une victoire en fin de match pour les Munichois, mais là ils ont eu le temps de faire les quelques réglages qu'il fallait dans la machine bavaroise et je les vois s'imposer assez facilement.
Merci. 12e match, c'est le groupe D, c'est Benfica, 0 points déjà éliminé, donc 4e de son groupe, qui reçoit l'Inter de Milan. Nadim de son côté base l'Inter et de façon très surprenante, Chris va nous dire pourquoi il voit Benfica s'imposer.
Ouais, tout simplement. Mais l'Inter, tu l'as dit, déjà qualifié. L'Inter, quoi qu'il arrive après cette rencontre-là, jouera la première place du groupe face à la Real Sociedad lors de la dernière journée. Pour moi, c'est une équipe de l'Inter de Milan qui avait quand même gagné dans la douleur au match aller, une victoire 1-0 face au Benfica. C'est une formation qui s'est imposée aussi dans la douleur face à Salzbourg, donc 2-1 à Giuseppe Meazza et aussi 1-0 en Autriche. C'est une formation qui n'est pas injouable depuis le début de la saison, même si c'est quand même un des cadors de la Ligue des Champions. C'est une équipe quand même qui a été battue à domicile par Sassuolo, qui a concédé quelques nuls, notamment devant Bologne et aussi ce week-end sur la pelouse de la Juventus de Turin. Et pourquoi pas aller chercher une victoire du Benfica, sachant que le Benfica doit absolument gagner pour peut-être rêver encore d'un renversement en Europa League. Alors c'est vrai que le Benfica, c'est 4 défaites en 4 journées, mais je trouve que les Portugais n'ont pas démérité sur certaines rencontres dans cette Ligue des Champions, notamment bien sûr face à l'Inter. C'est une formation quand même qui est en tête de son championnat, qui a un gros potentiel dans le secteur offensif, hein, donc João Mario, Angel Di Maria, Rafa, Arthur Cabral, c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai que ces joueurs ne sont pas forcément décisifs en Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui est actuellement en confiance, elle a avec 2 victoires face à Famalicão et dans le derby face au Sporting. Donc voilà, donc pourquoi pas une belle surprise sur ce match.
Ok, Nadim, à l'opposé de ce prono donc.
Oui, je reste sur la logique et surtout sur mon raisonnement sur la première place de ce groupe. Si l'Inter fait un meilleur résultat que la Real, il pourrait se contenter du nul lors de la dernière journée en recevant justement la Real Sociedad. Donc l'enjeu reste du côté des interistes. Il faut à tout prix éviter une grosse cylindrée européenne en 8e de finale. On l'a vu par le passé, même le PSG, quand ils finissent 2e, ils ont du mal à passer le 8e parce que c'est une grosse cylindrée en face. Les interistes vont rester sérieux jusqu'au bout. Ils ont fait un bon match à la Juve où ils ont géré en deuxième mi-temps alors qu'ils auraient pu appuyer et enfoncer le clou. Ça montre qu'ils ont voulu laisser des forces pour ce match-là.
Avant-dernier match, groupe C, c'est le Real de Madrid, déjà qualifié leader de son groupe qui reçoit le deuxième, à savoir Naples. Et là, vous êtes tous les deux d'accord. C'est la cartouche, le triple, Chris.
Oui, le triple, hein, tout simplement. Alors, le Real est déjà qualifié. Le Real n'a besoin que d'un seul point pour assurer sa première place. Mais voilà, je ne prends pas de risque parce que cette équipe du Real quand même a beaucoup d'absence sur ce match-là. Donc, il y a les deux gardiens, Courtois et Kepa, qui sont blessés. Dermine Tao est blessé de longue durée. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Junior et sûrement aussi Luka Modric qui s'est ressenti d'une douleur ce week-end. Donc, je pense que Carlo Ancelotti ne va pas prendre de risque sur cette rencontre-là, sachant que le Real est déjà qualifié. Et du côté de Naples, voilà, je pense qu'il y a une nouvelle saison qui a débuté le week-end dernier, donc avec une victoire, quand même une belle victoire sur la pelouse de l'Atalanta Bergame 2-1. Donc je pense que sans Rudy Garcia, le SNA peut se retrouver et peut-être aller chercher des points à Madrid, donc pourquoi pas une surprise.
Un petit mot sur Rudy Garcia, peut-être, Chris, tu veux peut-être en dire plus.
Non, merci, ça va.
Ok, donc Nadim, triple également sur ce match.
Ouais, triple sur le match parce que l'enjeu est du côté des Napolitains et l'électrochoc a eu lieu avec l'arrivée de Mazzarri sur le banc en tant qu'entraîneur et remplaçant de Rudy Garcia. Après, j'ai vu le match en entier à l'Atalanta Bergame. Heureusement qu'il y a la boulette en deuxième mi-temps qui donne le but à cette équipe de Naples. Sinon, c'était quand même une équipe encore en proie au doute. Et l'autre bonne nouvelle, justement, lors de ce match, c'est la rentrée en jeu d'Osimhen qui revenait de blessure. Il était pas mal et a bien fini la rencontre. Il devrait être titulaire à Madrid. Sinon, le Real, tu l'as rappelé, Chris, il y a énormément d'absents, mais on a vu que malgré les absences, ils se sont promenés à Cadix et j'avais doublé pour rien le week-end dernier. Donc là, je triplerai le match, mais l'après reste quand même du côté du Real Madrid et de son expérience.
C'est déjà le dernier match, messieurs. Donc, le 14e, c'est le groupe B entre Arsenal et Lens. Arsenal, leader de son groupe, avec 9 points. Lens est 3e avec 5 points. Et vous êtes de concert sur ce match, puisque Chris, tu bases des Gunners, tout comme Nadim.
Oui, ça, base pour moi pour les Gunners. Alors, c'est vrai que c'est un match particulier parce que je vais quand même rappeler qu'à 18h45, il y a un Séville-PSV Eindhoven. Et en fonction du résultat, Arsenal pourrait se contenter d'un match nul pour se qualifier et valider sa première place dans cette poule. Donc c'est assez frustrant d'avoir ce match de Séville quelques heures avant. Alors, je pense que les Gunners quand même sont actuellement sur une très très belle dynamique. Hein. Ils viennent de prendre la première place de la première ligue, donc ils sont en confiance. Ils viennent de s'imposer à Burnley, ils viennent de s'imposer à Brentford sur le score de 1-0. Donc voilà, c'est une équipe qui risque d'être compliquée, qui va se dire difficile pardon à manœuvrer. Dans le secteur offensif, l'Arsenal est au complet avec Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli qui revient aussi, Trossard qui est en train de retrouver sa forme, Nketiah qui est toujours là. Et du côté de Lens, c'est quelques défections comme Machado qui sera blessé, Danso est je pense incertain, mais il devrait peut-être tenir sa place sur ce match-là. Alors, c'est vrai qu'il a été laissé au repos devant Clermont suite à une contusion au pied, mais c'est une équipe de Lens, je pense, qui peut retomber dans les rangs. Alors c'est vrai que on a vibré lors de leur victoire au match aller, cette belle victoire 2-1. Mais c'était quand même une victoire un peu à l'arraché avec beaucoup de réussite. Donc je pense que quand même Arsenal va rectifier le tir sur ce match-là. Et on va quand même rappeler que Lens reste sur une défaite à Eindhoven 1-0, où je trouve que les Lensois ont été quand même pas mal bousculés dans l'agressivité, dans l'intensité. Donc pour moi, avantage Arsenal. Et en plus, on va rappeler quand même qu'Eli Wahi n'a pas encore remplacé Loïs Openda. Donc difficile, je pense, pour les Lensois de trouver le chemin défilé face aux Gunners.
Je suis assez d'accord, tout comme Nadim, j'imagine.
Ouais, j'ai également basé les Gunners qui voudront donc non seulement prendre leur revanche sur le match aller, mais surtout assurer la première place du groupe en battant les 100 et or. Alors, à la différence du match aller, où il y avait eu donc l'exploit des Lensois, Bukayo Saka qui était fragilisé en début de match et il s'était rapidement donc blessé pour sortir en première mi-temps. Là, il est revenu à 100% de ses capacités. Donc, ça sera l'équipe type, comme tu l'as signalé, Chris. Alors, en plus, à l'Emirates, les Gunners se sont imposés 2 fois sur des clean sheets, 4-0 face au PSV et 2-0 face au FC Séville. Donc, encore une équipe qui montre un visage différent chez elle et en déplacement. Du côté de Lens, ça va beaucoup mieux, surtout depuis cet exploit qui a littéralement lancé leur saison, puisqu'ils ont fait une grosse remontada en Ligue 1, en championnat, et ont malgré tout fait des performances en Ligue des Champions. Mais là, je pense que l'obstacle sera de taille, la marche sera un peu trop haute. Les Lensois vont tout donner, c'est pas le style de la maison de fermer le jeu. C'est une équipe qui donne tout, mais je pense que ça ne sera pas suffisant.
Messieurs, merci. C'était donc le prono du Loto Foot 1570 à valider ce soir avant 20h55 maxi. Il y a un pactole de 500 000 euros. Le prono qui vous a été proposé était composé de 3 triples, trois doubles, dont six pronos communs que je rappelle entre nos deux pronostiqueurs. Il y avait Paris Saint-Germain-Newcastle, Feyenoord, Atlético, Braga, Union Berlin, Real Sociedad, Salzbourg, Real Madrid, Naples et Arsenal, Lens. Voilà, on enchaîne avec votre sélection, vous, qu'on garde toujours le même ordre. On va commencer par la sélection de Chris qui va nous parler justement du match du Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est ça, voilà, donc PSG Newcastle, donc ce soir, pour moi, avantage bien sûr aux Parisiens, surtout au Parc des Princes. Alors, ce serait peut-être surprenant de prendre Ousmane Dembélé comme buteur, mais voilà, c'est un garçon quand même qui a, je pense, retrouve un petit peu de confiance sur ses derniers matchs. Et c'est vrai qu'il est toujours aussi maladroit, mais il a quand même trouvé le chemin défilé face à Monaco ce week-end, donc je pense que c'est plutôt intéressant avant ce match de Ligue des Champions. C'est un garçon qui a frappé la barre face au Milan AC, donc voilà, j'espère qu'il va trouver le chemin défilé face au Magpies, et je trouve que sa cote à 3 est plutôt sympa donc pour un buteur. Ensuite, on a Milan AC Dortmund, hein, donc toujours dans la poule du PSG. C'est un match qui s'annonce bien sûr compliqué, hein, pour les Milanais. On l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'absents. Mais Olivier Giroud est toujours là. C'est le meilleur buteur du Milan AC sur ce début de saison. C'est cette réalisation en Serie A. C'est un garçon qui a marqué de la tête face au PSG lors de la dernière journée. C'est 6 buts sur ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il était suspendu ce week-end face à la Fiorentina, donc je pense qu'il manquera pas de fraîcheur pour ce match de Ligue des Champions. Et comme ça va être un match, à mon avis, assez fermé et qui peut se jouer sur un coup de pied arrêté, donc pourquoi pas un but de Giroud, côté à 2,70. Et enfin, je me tourne sur le match de Braga-Union Berlin. Donc c'est, voilà, on le disait, c'était un match important pour la course à l'Europa League. Braga s'était imposé 3-2 à l'aller. Le meilleur buteur de la Liga Betclic du côté de Braga, c'est Simon Banza. Il a marqué déjà 10 buts cette saison. Alors c'est, à l'inverse, c'est un garçon qui est souvent remplaçant en Ligue des Champions. Maintenant, il a été préservé ce week-end en coupe. Donc je me dis que s'il a été préservé, c'est pour qu'il soit, pour être titulaire face à l'Union Berlin. Donc sa cote à 2,70 est plutôt sympa pour un garçon qui trouve régulièrement le chemin défilé. Et enfin, du côté du fun, je reste sur Simon Banza et son doublé est à 10. Donc, face à une équipe de Berlin qui enchaîne les défaites, je trouve que c'est plutôt intéressant.
N'oubliez pas que c'est maintenant. Il faut poser vos questions dans les différents chats. On se fait un plaisir d'y répondre juste après la sélection de Nadim, qui va nous parler de foot, évidemment.
et de buteur, hein, malgré le manque de réussite sur les dernières émissions. Alors, je vais commencer par le Shakhtar Donetsk. C'est ce soir à 18h45 qu'ils reçoivent l'équipe d'Antwerp. Alors, à l'aller, les Ukrainiens s'étaient imposés 3-2 et il y avait eu un doublé de Sikan, l'attaquant ukrainien de cette équipe. Et je vais le tenter en tant que buteur à 2,80. Donc, Sikan a marqué non seulement un doublé au match aller, mais a également été l'unique buteur lors de la victoire face au FC Barcelone, 1-0. Donc, c'est à tenter. Je vois une victoire en sec également du Shakhtar et avec handicap, si vous voulez la tenter, plutôt qu'un buteur. Mais je sens bien les Ukrainiens sur ce match. Et les Ukrainiens qui peuvent d'ailleurs toujours se qualifier puisqu'ils ne sont qu'à 3 points de Porto et du FC Barcelone. Assez étonnant, malgré le remaniement de cette équipe depuis 2 saisons. Ensuite, j'ai choisi le même match que toi, Chris, puisqu'on voit tous les deux une victoire des Portugais de Braga. Donc là, j'ai choisi Ricardo Horta, buteur. Il est également à 2,80. Alors, il a déjà mis 6 buts cette saison en championnat, dont un doublé également. Il a également mis, pardon, un doublé ce week-end face à Portimonense. Donc, il est plutôt en forme. Ça devrait sentir les buts comme au match aller où Braga en avait mis 3. Donc, s'il y a beaucoup de buts, et Banza et Horta devraient marquer. Enfin, le troisième choix, c'est encore un buteur coté à 2,80. Grosse coïncidence, on verra si ça porte chance. C'est le japonais international Take Kubo. Alors, il n'a pas encore marqué en Ligue des Champions, mais il a déjà marqué 5 fois en Liga. Comme je vois la Real s'imposer, ça peut passer par un but de Take Kubo. Surtout que je trouve que l'équipe est métamorphosée par la présence de ce joueur. Elle ne joue pas du tout pareil que les dernières saisons. Alors, il est souvent passeur et là, il faut espérer qu'il soit à la finition.
Oyarzabal, toujours absent, non ?
Justement, comme il y avait un doute dessus, alors là, j'ai pas vu blessé définitivement, donc peut-être qu'il sera sur le banc. Il y a un petit doute là-dessus, mais au début, c'est ce qui a motivé mon choix. Voilà, donc on verra bien et j'espère que Kubo contribuera à la victoire. Et enfin, pour le fun, alors là, je prends le combiné buteur En-Nesyri, Luc De Jong sur le match entre le FC Séville et le PSV. Alors, lors du match aller, les deux joueurs avaient marqué. Donc, j'espère que ça va se reproduire sur ce match où les deux équipes vont se livrer à fond pour s'imposer. On rappelle qu'une victoire est obligatoire pour les Sévillans et que pour le PSV, ça assurerait quasiment la qualification. En plus, le Marocain a marqué ce week-end l'unique but de son équipe lors de la défaite face à la Real. Et De Jong, c'est 10 buts en championnat et 7 buts dans la Ligue des Champions en comptant les deux matchs de barrage de tour préliminaire.
Avec ces deux joueurs-là, on pourrait même miser sur un but de la tête.
Tout à fait, exactement. C'est peut-être les deux meilleurs joueurs de tête en Europe. Tu fais bien de le rappeler.
Christine Nadi, merci pour cette sélection. On débriefe tout ça dans l'émission de vendredi à 13h, toujours en direct et bien sûr disponible après en replay. On enchaîne avec la fin de l'émission, c'est-à-dire les questions et les réponses que Seb nous a compilées. Je prends tout de suite la première question, une question de ZLR. Si vous deviez nous faire un combi de trois buteurs sur ces matchs, quel serait votre pronom ? Je crois qu'on vient d'en parler, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Non.
Ok, merci. Merci bon, ZLR.
On a proposé à 7 buteurs, voilà. Je pense. Et pour ma part, j'ai pas pu. Si, j'ai étudié la Ligue des Champions, mais je me suis focalisé d'entrée sur certains matchs où ça sentait le gros score. Voilà, c'est un peu ma stratégie en général.
Question de Sébastien, qu'on salue encore une nouvelle fois pour ses questions et sa fidélité. Un avis, messieurs, sur les deux matchs de 18h45, à savoir Lazio Celtic et Shakhtar Antwerp. Perso, je pense plus pour les 1, nous précise-t-il.
La grosse value, c'est, enfin, entre guillemets, ça serait le Shakhtar qui joue malgré tout sur terrain neutre, mais on peut considérer qu'il reçoit, puisqu'ils ont fait des perfs. Le dernier match sur terrain neutre, ils avaient battu le Barça. C'est la cote, elle est quasiment à 2. La Lazio, c'est une cote de 1,50. Ils sont également favoris, surtout que le Celtic se déplace plutôt mal. La value, je la vois plus sur les Ukrainiens que sur le 1,50 de la Lazio. Après, si ça passe, tant mieux.
Question de Citam29, lui aussi, qu'on salue et qu'on remercie pour sa fidélité. Non, pourquoi, quand par exemple on chope un 13 sur 14, on ne gagne plus les rangs inférieurs, comme il y a quelques années, on ne touche plus le 12 et le 11? Alors, le règlement n'a pas changé, et je te laisse répondre, Ali.
Ouais, donc là, faut que tu précises tes jeux. Après, il y a différentes cas de figure. Quand tu joues en garantie N et que tu prends un 13 sur 14, là, tu as forcément les rangs inférieurs. En N-1, si la réduction est parfaite et qu'on ne perd pas de rang, donc si tu as fait une faute de prono et que tu n'as pas perdu de rang, il se peut que tu n'aies pas de grille à 12 et à 11, mais rien n'a changé. Les réductions sont pareilles. Il y a dans certains cas de figure où on n'a pas le rang inférieur quand on est dans les réductions N-1, N-2, et dans d'autres cas de figure, on les a. Donc si tu as un cas particulier, tu peux nous l'envoyer sur le contact Pronosoft et je me ferai un plaisir de t'expliquer en détail pourquoi sur ton jeu en particulier, il n'y a pas eu de grille au rang inférieur.
Question de Laurent. Bonjour. Pour le logiciel, une fois payé, normalement, c'est définitif. Pour faire les grilles, où il faut renouveler chaque année.
Oui, alors le logiciel de base, avec ses fonctionnalités de réduction, de filtrage et grade, enfin, s'achète une fois et c'est valable à vie. Après, l'option Live Score Server, qui apporte un tas de fonctionnalités qui sont devenues complètement indispensables, comme le téléchargement des grilles, le filtre estimateur et surtout le transfert des flashcodes. Il faut renouveler tous les ans l'option, ou alors vous pouvez prendre pour 2 ou 3 ans et ça sera tous les 2 ou 3 ans.
Question de Père Sova. Savez-vous s'il y a un super pactole autofoot prévu d'ici la fin de l'année? Oui, nous le savons.
Ouais, alors on pensait qu'il serait programmé le 3 décembre, mais a priori c'est le 10 décembre, ça devrait être confirmé ce week-end, mais le 10 décembre il devrait y avoir le super pactole de 2000.
Merci Nadim. Question de Christian, question qui revient assez souvent, dont on va redonner la réponse. Bonjour, tout d'abord félicitations pour votre travail, merci à toi. Vous êtes au top et pour vos conseils très précieux. Je voudrais vous poser la question suivante. Vous serait-il possible de suggérer à la FDJ de nous donner la possibilité de valider nos flashcodes en ligne, comme le fait Winamax? Merci, à bientôt.
Oui, on a déjà donné plusieurs clarifications, mais on va la redonner parce que tout le monde n'a pas visionné toutes les émissions. En fait, si la MDJ voulait proposer la validation en ligne, il faudrait qu'elle effectue ce qui s'appelle la séparation des masses, donc la séparation des enjeux. C'est ce que le PMU a dû faire avec le Quintet Plus. Donc, il y a une cagnotte qui est différente sur le Quintet Plus en point de vente et le Quintet Plus en ligne. Et en point de vente, elle est bien plus significative et importante qu'en ligne, puisque les enjeux sont beaucoup plus importants. Et il en serait de même pour le Loto Foot, avec des pactoles, par exemple, de 500 000 euros en point de vente et de, entre guillemets, seulement 50 000 ou 75 000 en ligne, où les joueurs sont beaucoup moins nombreux. Donc, je pense que c'est la raison principale pour laquelle la FDJ freine le fait de proposer une validation en ligne des lotofoot.
Question de Prosper 29290. Hello la team. J'ai posé une question sur l'ordre chronologique des matchs sur la grille FDJ il y a 10 jours. Ma question était mal posée. Je disais le match 1 en tête d'affiche, c'est normal. Mais tous les autres matchs devraient être dans l'ordre chronologique, ce qui paraît plus logique et mieux à suivre sur la grille au fur et à mesure. Plutôt que de chercher le match de 19h en match 2, le match de 15h en match 8, etc. Pas logique parfois, à part bien sûr sur les têtes d'affiche en match 1 et 14.
Ouais, alors donc déjà, bon, c'est un choix qui est arbitraire, mais je l'avais déjà un peu dit, la FDJ le fait pour plusieurs raisons et marketing. Il n'y a pas que le match 1 qui est important visuellement, il y a toujours les derniers matchs des grilles qui sont importants, notamment sur le 7, on verra qui positionne le dernier match du 7, c'est toujours aussi un gros match, il y avait Juve Inter sur le dernier Loto Foot, donc l'ordre est très important visuellement pour les joueurs et bien plus que l'horaire. Et puis la deuxième chose, même nous quand on analyse ces grilles, le fait d'avoir les mêmes compétitions, de faire les 4-5 matchs de Ligue 1 d'un seul coup, puis de passer à un autre championnat et ne pas alterner match de 15h de Ligue 1, match de Bundesliga, match de Ligue 1, match anglais, dans tous les sens, on est moins désarçonné. Après, c'est vrai que sur les sites en ligne, ils le font, mais je trouve aussi très pratique, comme c'est fait actuellement par la FDJ. Moi, je suis plutôt favorable au choix actuel de la Française des Jeux. Après, ils ont dû faire des sondages, ils ont leurs outils de test et leurs outils de marketing qui font que c'est comme ça aujourd'hui.
Question d'Ali74. Lorsque les participants au concours sont moins nombreux à jouer sur une grille, l'estimateur est très aléatoire. En tiens-tu compte, Nedim ?
Alors, j'étais pas en train d'écouter à 100%, oui. Ah ouais, quand ils sont moins nombreux, alors il y a moins nombreux et moins nombreux. Ce qu'il faut pas faire, c'est prendre l'estimateur quand il y a moins de, allez, 100 ou 200 pronos. Mais à partir de 200 pronos, on est dans de la vraie stat qui commence à être de la statistique des grands nombres. Après, si tu as observé des cas particuliers d'évolution bizarre, il faut le signaler. Mais il y a aussi une autre chose, c'est les grilles atypiques. Et là, peu importe, ou exotiques, peu importe le nombre de pronostics, il y a des grilles, notamment le lundi, où il y a des matchs roumains et de championnats bien moins connus, où les joueurs du concours vont un peu jouer au pif, sans analyser. Et il peut y avoir des gros écarts avec la réalité. Donc, peut-être c'est ce genre de grille qui a le plus d'erreurs. Mais je t'invite à préciser un peu ce que tu as vu et à partir de quel seuil de nombre de pronos.
Il y a Citam29 qui précise la chose suivante sur sa question. Il voulait dire que quand on a un 7 sur 7, par exemple, on touche le 7 et pas le 6. On a un 7 sur 7, donc on devrait toucher en plus le 6 dans la même grille. Point d'interrogation.
Bon, là, je suppose que c'est une N-1 au minimum, mais il faut que tu nous dises quel système de réduction tu utilises. Alors, il y a des systèmes parfaits, le 4 triple N-1 ou le 7 double N-1. Ça, ce sont les deux seuls systèmes parfaits dans les petits budgets. Alors, qu'est-ce qu'un système parfait ? C'est justement le système qui, quand il ne perd pas de rang, on n'a pas de grille au rang inférieur. Donc, la garantie N-1 vous grâce sur le 6 sur 7. Si par chance, vous avez le 7 sur 7, ben là, vous n'avez pas de 6 sur 7.
Question de Joe. Bonjour la team, serait-il possible de mettre le numéro des grilles sur les titres des vidéos ? Ce serait plus facile pour retrouver les grilles anciennes. Merci.
Bon, je crois que Seb, il est en train d'écouter la suggestion. Je pense que c'est une bonne suggestion. Et peut-être aussi l'année, du coup, puisque les numéros repartent à 1 début janvier.
Au 1er janvier, oui. OK. Question de Raphaël. Salut la team, merci pour vos pronos qui m'ont bien éclairé. Merci, nous, pour ton logiciel. Je m'éclate avec l'appli également. Écoute, parfait. Je voudrais savoir si Chris et toi, nous, vous jouez aussi les grilles Winamax.
Alors, pendant une certaine période, avant qu'on arrive le 8 et le 12 de la FDJ, je jouais énormément les grilles à 12 de Winamax, notamment quand il y avait des pactoles. J'avais même fait des jeux avec des contributions, puisqu'on peut jouer en groupe sur Winamax assez facilement. Sinon, là, de temps en temps, je fais le set quand je peux pas sortir, valider mon propre set FDJ, ou quand je trouve que le set FDJ a un trop gros favori. Parce que ce que fait Winamax, qui est intéressant à mon avis, c'est sur les sets. Alors bon, France-Gibraltar, ils peuvent pas l'écarter parce que c'est la France, mais s'il y a un Real Madrid-Cadix, ils vont le sortir de la grille pour prendre un match un peu plus équilibré. Et donc, pour les gros joueurs dont je fais partie, ça garantit un minimum, des rapports minimum au 7, et on n'aura pas du 10 euros si tous les favoris gagnent. Ça part de 80 ou 100 euros minimum, quels que soient les résultats.
Question de Saïd Ignon. Peux-tu faire plus de vidéos short, nous ?
Oui, c'est vrai que cette saison, j'ai pas repris les shorts qui sont des extraits que je refilme de nos vidéos live. Alors aujourd'hui, j'aurais bien voulu prendre en compte ta suggestion, mais il y aurait un petit problème sonore, je pense, avec ma voix. Mais ça va reprendre prochainement sur des grosses affiches où je sens bien le truc.
Question de Raphaël Nou. Je voudrais savoir si tu as déjà réfléchi à une évolution de ton logiciel pour encore performer davantage. Je n'ai pas de suggestion, nous dit-il, c'est juste pour savoir. Alors Raphaël, sache que le logiciel existe depuis 20 ans et qu'il n'a cessé d'évoluer avec les propres apports de Nadi, mais aussi avec les apports de la communauté dont tu fais partie maintenant. Et aujourd'hui, il semble très difficile d'apporter des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités qui vraiment répondraient à un besoin de masse, tellement le logiciel est complet. Alors on est preneur, hein, bien évidemment, Nadim, hein, mais ça nous paraît quand même compliqué aujourd'hui de trouver des choses qui peuvent encore aider le joueur.
Il y a des petites choses fonctionnelles sur tout ce qui est grille combinatoire qui sont dans le tiroir, et s'il y a un peu de temps, elles seront peut-être faites. Maintenant, c'est noté depuis un moment, c'est pas archi prioritaire. Mais la grosse évolution qu'on souhaite faire, c'est de faire partager les grilles entre le logiciel et l'appli PronoFoot 1 et 2, et aussi d'améliorer l'appli PronoFoot 1 et 2 qui ne reprend qu'un sous-ensemble des fonctionnalités du logiciel. Donc, c'est plus là les axes d'évolution prioritaires, partager les jeux et développer l'appli où aujourd'hui il y a un maximum d'utilisateurs.
Question de Matteo Player One. Bonjour, quelle est la garantie que tu veux mettre à chaque fois, genre N, 25% ou autre, interrogation Nadine.
Quelle est la garantie que je mette à chaque fois? En fait, je mets plutôt du N-1. Alors, c'est soit je me dis un pactole et la grille est vraiment abordable. D'ailleurs, là, je pense que je vais jouer en garantie N parce qu'il y a un pactole et je pense qu'il y a assez de bases que j'ai proposé et que je sens bien. Et si c'est une grille comme le week-end dernier, je vais plutôt, qui semble très ouverte avec beaucoup de matchs illisibles, je choisis plutôt une N-1 à 100%. Et parfois, je le fais de plus en plus récemment, je fais des N-1 renforcés où je rajoute une croix sur un double ou un triple pour garantir un résultat, notamment le dimanche soir. Si je mets un double, un N en réduction, je rajoute la croix du favori. Et je me retrouve avec plus de grilles si le favori s'impose.
Question de Citam29. Nous, tes pronos sont-ils plus performants quand tu parles du nez? C'est une bonne question.
C'est pas souvent que je suis pris du nez. Donc, on le verra déjà le vendredi prochain. Et pour faire une stat, il faut des grands nombres, comme je le dis. Et j'espère ne pas avoir de grands nombres dans cette situation-là.
C'est ça, on verra donc si tu as eu du nez. Allez, on va s'arrêter.
Bien.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est super important pour nous. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront encore là, maintenant, tout de suite. Merci pour votre attention. On se retrouve vendredi 1er décembre à 13h pour une grille Lotofoot 15 du week-end à base de Ligue 1, comme toujours. Certainement 5 matchs de Ligue 1. Ce sera toujours en direct et bien sûr disponible dans la foulée en replay. Les gars, merci pour vos pronos. Excellente journée. Bon prono et bonne journée de Ligue des Champions. Ciao.
Bon prono. Bon match.
Bon match.